BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, la note de la France va être abaissée, mais moi j'ai quatre bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end, c'est une émission exceptionnelle. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui c'est quatre bonnes nouvelles et pas trois. La quatrième bonne nouvelle, c'est qu'on a pulvérisé notre record d'audience. Vous avez été 260 000 à nous suivre en mars, rien qu'en podcast pour C'est votre argent. Alors merci à vous tous et c'est un formidable encouragement. Alors ça sera exceptionnel aussi parce qu'on va vous donner toutes les clés pour comprendre ce qui s'est passé cette semaine, ce qui va se passer la semaine prochaine sur l'économie, sur les placements et sur votre argent. Alors au sommaire aujourd'hui, les mots de la semaine, c'est ministre de l'économie. Est-ce qu'on a encore un ministre de l'économie? La question macro, ça c'est spécial pour un de nos invités que vous allez découvrir. Est-ce que le réarmement mondial va alimenter la croissance économique et plus la croissance verte, hein, bien sûr. Le chiffre de la semaine, c'est 2025. Selon Elon Musk, l'IA aura dépassé l'intelligence humaine et OpenAI et Meta annoncent des IA qui pourront raisonner, solutionner des problèmes très complexes. Quel impact pour l'économie et pour la bourse? Et en deuxième partie de l'émission, bon, on a eu une petite déception. Alors, est-ce que c'est une déception? Il y a des gens ici qui répètent depuis un moment qu'il n'y a pas d'inflation, sauf qu'aux États-Unis, il y en a encore un peu, et que ça a provoqué une petite baisse de la bourse. La question d'argent, quel est le placement de la semaine? Le top ou le flop de la semaine? Vous rappelez le principe, un événement, une personnalité ou une institution, et on n'a pas le droit de dire la BCE chaque semaine, qui a fait l'actualité de la semaine pour un flop, pour la BCE, et ou des tops. Le top 3 des gérants 2023 et les actions à acheter ou vendre, mais vous le savez maintenant. Pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Tout le monde me répète que si j'avais suivi ces cours d'économie, je comprendrais mieux ce que je dis, ce qui n'est pas évident. Anne-Sophie Alsif, vous êtes chef, on me dit ça à chaque fois, mais pourquoi tu ne suis pas ces cours au lieu de dire ce que tu racontes sur les plateaux sans rien comprendre?
Vous êtes le bienvenu.
Vous êtes chef économiste de BDO France, professeur d'économie à la Sorbonne, et c'est toujours un plaisir de vous avoir.
Merci.
Il a changé de crèmerie. Et c'est donc un plaisir de le recevoir à nouveau. Sébastien Corchia, vous êtes directeur général et directeur, belle promotion, et directeur des investissements chez Cogefi Gestion. D'abord, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à nouveau. Et dites-nous deux mots de Cogefi.
Eh bien, écoutez, Cogefi, avec sa filiale de gestion, Cogefi Gestion, que je dirige avec Anne d'Anselme, c'est une société assez ancienne d'entreprise d'investissement pour Cogefi. Et ça remonte à 1962. C'était une filiale d'Algeco à l'époque dans les investissements.
Et vous faites quoi?
Et puis, depuis, c'est devenu une société familiale. Et j'aime bien les sociétés familiales, vous le savez.
Ouais, c'est votre spécialité.
Et à l'intérieur, eh bien, on fait de la gestion sous mandat essentiellement, de la gestion PC, bref, ce qu'on appelle de la gestion privée. Voilà.
Elle est d'accord avec Elon Musk, ou Elon Musk est d'accord avec elle. Les robots et l'IA vont remplacer Jean-Marc Daniel et vont tous nous remplacer dès 2025. Ça tombe bien, c'est sa spécialité. Alice Labou, vous êtes présidente fondatrice de Trecento Asset Management. C'est toujours moi, hein, toujours pas d'hologramme, toujours pas de robot à ma place.
Très bien.
Et je sais que vous le regrettez, mais ça va venir un jour. C'est un monument de l'économie. Il est à l'économie ce que le général était à la politique, ce que Bernard Arnault est au luxe et ce que Aya Nakamura est à la chanson française. L'immense Jean-Marc Daniel.
Je suis passé de Johnny Hallyday à...
Ben, je m'adapte.
Ah, oui,
non, mais d'accord, mais je m'adapte au public. Le public croit que je dis.
Ce qui subsiste, c'est le général.
C'est le... Ben, Bernard Arnault, c'est pas mal, quand même.
Oui, c'est bien. C'est bien.
Lui,
c'est bien. Il
y a Nakamura aussi.
Oui, oui, absolument. Je comprends pas toujours ce qu'elle dit, mais
ouais,
c'est bien.
Enfin, c'est le principe, hein, aussi.
Oui, oui, non, mais j'écoute aussi beaucoup de chansons dont je comprends pas les paroles. Hein.
Allez, le mot de la semaine, c'est un mot qui vous a beaucoup occupé, en tout cas qui m'a beaucoup occupé. C'est le ministre de l'économie, c'est pas de ma faute, cette chanson de Brigitte Fontaine. Depuis quelques jours, c'est le sujet de tension numéro un au sein du gouvernement. Alors ici, on fait pas de politique, on s'en fout. Mais le déficit, notre perte de crédibilité, bientôt, j'espère, notre dégradation. Bruno Le Maire, écrivain, dit que c'est la faute de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, l'autre. Emmanuel Macron dit à Bruno Le Maire, mais c'est ta faute, t'es là depuis 7 ans. Bruno Le Maire lui dit, mais oui, mais toi, t'es là depuis 10 ans. Alors d'abord, première question, Anne-Sophie Alsif, pour amener un peu de calme dans cette situation, et ça, vous savez le faire. La situation financière de la France est-elle préoccupante?
Alors, la situation de la France n'est pas préoccupante au moment où on se parle, mais ce qui est plus préoccupant, c'est la trajectoire, et surtout notre trajectoire par rapport à nos partenaires européens. C'est vrai que ce déficit, en termes de crédibilité, et les prévisions de croissance pour 2023 étaient à 1,4 dans le projet de loi de finances. Donc c'était vraiment une hypothèse très très haute. En général, on a 0,2-3 points au-dessus du consensus. Nous, par exemple, on était à 0,8. Donc là, c'était quand même une prévision très haute qui a tout de suite été revue à la baisse une fois le projet de loi de finances déjà voté. Donc c'est vrai que deux mois après, ça fait quand même un petit peu mauvais effet d'avoir revu à la baisse cette prévision de 1,4 à 1%. Pour le déficit, en effet, il y a eu un ralentissement de la croissance plus important qu'anticipé, notamment en effet en raison de la conjoncture internationale, de la récession en Allemagne, premier client et fournisseur, et aussi d'un ralentissement beaucoup plus important de l'investissement en France en raison de l'augmentation des taux d'intérêt, okay, qui n'avait pas forcément été anticipé. Donc ça veut dire moins de recettes fiscales, d'où ce déficit plus important.
Et toujours autant de dépenses publiques.
Tout à fait. Mais on voit que, quand même, dans la trajectoire des dépenses publiques, il y a plutôt une maîtrise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de baisse, mais en tout cas, voilà. Maîtrise, en tout cas, il n'y a pas une explosion par rapport aux recettes. Je veux dire, le déficit, c'est vraiment moins de recettes. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Donc de dire, voilà, je ne savais pas, etc. C'est vrai que déjà, quand on choisit des scénarios de prévision de croissance aussi optimistes par rapport au consensus, c'est sûr qu'il y a quand même un risque qui est important.
Qu'est-ce que vous dites? Parce qu'en filigrane, ce qu'on entend, c'est ils donnent des chiffres bidons, quoi.
Alors bon, normalement non, quand même, on espère.
Non, mais
pas
vous pensez qu'ils croyaient vraiment que c'était...
C'est normal que le gouvernement soit dans ce rôle d'avoir, je vous dis, toujours une prévision optimiste. Ça a été le cas, vous regardez historiquement, mais le problème, mais c'est dans la proportion.
Bah oui.
Non, parce que par exemple, le Covid, on a vu après le Covid, des
ça,
fois, quand vous dites, voilà, on va avoir de la croissance...
Non, ça, je comprends, parce qu'il y a un événement extraordinaire.
Mais c'est toujours 0,2, 0,3 points. Voilà. On n'est pas... Là, on est vraiment à du 0,6.
Donc c'est volontaire, très... ça peut pas être...
C'était pas forcément volontaire, je pense que vraiment...
Donc c'est de l'incompétence.
C'est pas de l'incompétence non plus, il faut pas non plus être à sa place.
Non, si c'est pas de l'incompétence, c'est de la manipulation, comment on peut se planter alors que
je pense qu'il y a eu deux éléments. C'est vrai qu'on fait des prévisions et on était à disposition,
bah oui,
parce que c'est
ce qu'on avait vu. Ils ont qu'à lire ce que disent les autres économistes.
C'est sûr qu'au niveau du consensus, c'était assez surprenant d'avoir une prévision aussi optimiste. Après, à l'heure des charges, c'est vrai que d'avoir une récession en Allemagne, c'était prévu aussi importante, et aussi avec le fameux gel de 60 milliards, donc vraiment de tuer, on va dire, la demande. Là, c'est vrai que c'était quand même plus important que prévu. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est vraiment le ralentissement de l'investissement, notamment des entreprises. Quand on voit en termes de contribution, on voit que depuis le Covid, on était quand même resté sur un plateau. Là, on a vraiment une chute beaucoup plus importante avec la hausse des taux, avec un taux d'épargne qui reste quand même très élevé à 17%. C'est-à-dire que même avec les prévisions de baisse d'inflation, les ménages consomment, mais continuent d'épargner, et l'investissement des entreprises s'effondre alors qu'on est dépendant à 95% du système bancaire. Donc c'est vraiment ces raisons qui ont vraiment bloqué le gouvernement.
Bon, donc vous savez qu'on va l'annoncer, Bruno Le Maire va partir, et il y a déjà une rumeur, Jean-Marc Daniel, ministre de l'économie. Jean-Marc Daniel, ministre de l'économie, il arrive... Il voit la situation de la France. Alors, préoccupante dans sa trajectoire. Moi, je dis déjà pas que dans sa trajectoire, parce que quand on a 5,5% de déficit et qu'on prévoit 5,1, c'est déjà une catastrophe. Que fait Jean-Marc Daniel, ministre de l'économie?
Alors Jean-Marc Daniel, vous savez comment il fait? Il raconte des histoires, et il cite pas tout de suite Cicéron, mais il cite quand même alors Louis XIII, la dernière fois qu'on a débattu, vous m'avez parlé de Louis XIII, donc il va voir Macron et il lui dit la même chose que le baron Louis à Louis-Philippe. Vous voulez que je fasse de la bonne finance? Mais faites une bonne politique. Donc je ne ferai de la bonne finance, ministre des Finances, que si il fait une bonne politique. Parce que on a quand
vous
même...
dédouanez Bruno Le Maire, donc vous dites
non,
que c'est de la faute d'Emmanuel Macron.
Non, mais je pense quand même que nos dirigeants, les gens, quels qu'ils soient, ils sont solidaires. Je les ai surnommés les Luc et Luc de la dépense publique. Ils dégainent la dépense publique plus vite que leur ombre. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème, paf, ils dépensent.
Donc vous, ministre de l'économie, vous faites quoi?
Alors, je pense d'abord qu'il faut avoir un objectif clair, qui est un objectif basé sur le vrai problème de l'économie française, c'est-à-dire que c'est une économie qui vit au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire, je maintiens, le véritable problème de l'économie française, c'est plus encore que son déficit budgétaire, c'est son déficit extérieur. On est en train de devenir un pays détenu, sachant que nous sommes un pays vieux. Donc on devrait dégager de l'épargne. À 17% de taux d'épargne, mais c'est pas assez. Je rappelle quand même que le taux d'épargne dans les années des 30 Glorieuses était entre 25 et 20% les plus mauvaises années. On nous parle de Georges Pompidou avec émotion. Les 5 années de Georges Pompidou, on n'est jamais descendu en dessous de 25% de taux d'épargne. Avec une croissance qui était une croissance...
On n'avait peut-être pas un système social aussi généreux que celui qu'on a aujourd'hui.
Oui, non, mais le taux d'épargne, globalement. Hein, globalement. Et donc...
Donc vous faites quoi ? Moi, ce que je veux savoir, c'est...
Je fais trois choses très simples. La première, c'est que je baisse effectivement les dépenses publiques et je touche pas aux impôts des entreprises. Parce qu'on l'a dit, effectivement, on a besoin d'investissement. Et il faut savoir que chaque fois qu'on augmente les impôts des entreprises, on baisse la demande des entreprises, on baisse la demande d'investissement, on baisse les profits qui sont les investissements de demain. Bon, la deuxième chose...
Comment réduire les dépenses publiques, c'est-à-dire tout le monde dans la rue, vous en foutez?
Il y a un moment où il faut savoir gouverner. C'est gouverner, c'est quand même là aussi. Encore une fois, je rappelle qu'en 1983, on a baissé le pouvoir d'achat des Français et on a ponctionné davantage sur les Français qu'on ne leur avait donné en 81.
Réduction des dépenses publiques.
Des dépenses publiques. Et dans les éléments de réduction des dépenses publiques, on nous parle de l'emploi à vie dans la fonction publique, mais qu'éventuellement, il pourrait y avoir des licenciements. Je pense qu'il faut amorcer tout de suite l'idée d'une commission de la hache. C'est-à-dire commencer à partir de l'idée... Macron a été élu en disant qu'il allait supprimer 5 000 emplois de fonctionnaires. Il faut amorcer
la décrue. Donc ça, c'est le 1, le 2.
Mais le deuxième élément, je fais une situation de révision du patrimoine public. C'est-à-dire que notre ministre dit, vous savez, on va régler une partie de nos problèmes en réduisant nos implantations immobilières. On a d'ailleurs vendu 280 millions d'euros de biens immobiliers. 280 millions d'euros, c'est rien. C'est 3 000 milliards de dettes. Tout ça. En revanche, l'État est propriétaire d'entreprises. Donc, je rappelle que la loi Pacte prévoit qu'on privatise.
Donc, privatisation.
Privatisation massive. Et troisième élément, j'utilise le problème de la contrainte environnementale pour augmenter les impôts sur les ménages, et singulièrement les impôts au travers d'une taxe carbone.
D'accord. Et à deux donc, ça, c'est la révolution. Hein. Vous avez bossé les gilets jaunes, tout ça.
Vous me demandez ce que je fais.
Non, mais je suis d'accord. Et vous dites à votre copain ministre de l'Intérieur, toi, tu te démerdes avec le...
Oui, le problème, c'est qu'avec votre raisonnement, on ne fait jamais rien.
Non, moi, je n'ai rien dit. Moi, ce n'est pas mon raisonnement.
C'est la révolution, on ne fait jamais rien.
Moi, je suis d'accord avec vous. Ne dites pas ça.
Sinon, c'est le discours à la Chirac. Chirac, quand on lui dit, vous avez parlé de cagnotte et tout ça, il dit...
Écoutez, je suis d'accord, moi.
Le discours de Chirac, pour justifier son discours sur la cagnotte, c'était de dire, quand il y a une crise, il faut dépenser plus pour soutenir la demande. Et en revanche, quand ça va mieux... Les Français s'attendent à ce qu'on leur...
La prochaine ministre du budget veut vous répondre.
On va répondre quand même sur les trois points. On est d'accord que la problématique, c'est trop de déficit et donc la France qui est trop endettée. Pour répondre à votre question des déséquilibres, on est dans une zone monétaire. Donc le problème, c'est qu'en effet, nous, on est en déficit extérieur, mais ça vous a pas échappé que d'autres ne le sont pas.
Oui.
Vous savez, la balance des paiements est à l'équilibre. Donc le problème de ces déficits commerciaux, c'est au niveau plus européen qu'au niveau seulement français. On peut faire quelque chose.
Juste pour finir.
On a quand même une Europe du Nord qui est énormément en excédent, d'ailleurs plus souvent 8% du PIB.
C'est pas nous.
Non, mais on est dans la même zone monétaire.
D'accord.
Quand vous regardez,
ils sont pas solidaires.
Vous connaissez Mundell, vous l'avez lu. C'est un problème quand vous regardez aux États-Unis qui est un État fédéral, vous n'avez pas les mêmes problématiques. Donc on peut pas. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour réindustrialiser, etc. Il n'y a pas de sujet. Mais ce sujet-là, c'est pas que du franco-français. C'est au niveau aussi européen ayant la même monnaie que ça se règle par rapport à nos excédents. Donc juste de dire. Et juste pour finir, à mon sens, le grand problème justement de la croissance française, c'est que nous, on est beaucoup moins diversifiés, très dépendants de la consommation. Et donc là, je reviens à votre deuxième point où vous dites, je vais couper massivement les dépenses. On est d'accord que notre problématique du début, c'est on est trop dépendant de l'extérieur, on a beaucoup de déficits, on a beaucoup de dettes. On rappelle que quand même, en économie, vous êtes d'accord, le meilleur moyen de se désendetter, c'est d'avoir de la croissance économique. Que fait la France, parce qu'on est très dépendant de la consommation par rapport aux pays du Nord qui sont plus dépendants du commerce extérieur, c'est justement de garder une certaine consommation, ce qui nous a permis l'année dernière de ne pas être en récession. Et d'avoir le taux de croissance. Non, c'est pas vrai.
Financé par le déficit.
Non, c'est pas le cas. On a un des taux de crédit. Non, pas du tout. Donc, ça, c'est le but au niveau de la consommation. Et là, vous dites, on va baisser massivement les dépenses publiques. Vous avez regardé la note de l'INSEE du mois de juillet. On est dans un des systèmes les moins inégalitaires au monde, de redistribution. Et si on coupe massivement les dépenses publiques, soyons clairs, c'est du revenu des Français en moins. C'est pas.
D'accord, mais on peut pas continuer à dire ça et ne rien faire.
Non, parce qu'en faisant ça.
Avance.
Non, croissance. Non, mais juste pour finir, en faisant ça, vous coupez donc le principal moteur de la croissance qui est la consommation, qui nous a permis de ne pas être en récession.
D'accord, mais c'est pas grave, si, peut-être qu'il faut passer par un ou deux ans de récession.
Non, mais la récession, c'est... Parce que je rappelle que le but, c'est de baisser le déficit public, on est tout à fait d'accord. Ouais. Et la croissance économique, c'est le mieux pour baisser le déficit public.
La courbe Angie,
non, quand on est en récession, vous avez beaucoup plus de déficit que si vous êtes en
Portugal, en Italie, en Espagne. Vous voulez répondre une seconde?
Oui, oui,
rapidement, parce que je voudrais l'avis des gens. C'est une catastrophe d'avoir 3 000 milliards d'épargne qui ne sont investis que dans l'immobilier et des dettes. On a parlé des États-Unis. Hein. Aux États-Unis, on est à 4%.
On n'est que sur le premier sujet.
Et l'épargne est investie dans les entreprises. Donc de dire qu'il y en a trop, moi je pense qu'il n'y en a pas trop, elle est juste mal investie.
Oui, alors je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Encore une fois, les pays d'Europe du Nord, ils ne sont pas solidaires de nous, ils ne viendront pas à notre secours et ils n'arrêtent pas de
dire. Bien sûr que c'est faux. Dans toutes les crises financières, on a fait le MES, on a fait tous les mécanismes. Quand il y a eu la Grèce, on est à notre.
Oui, oui, oui.
Ils ont besoin de nous.
Non, mais ils ont demandé en échange. Ils ont demandé en échange. Ils ont quand même demandé en échange de l'aide pour la Grèce, pour le Portugal, pour l'Italie et l'Espagne, des sacrifices que nous, on n'est pas prêt à faire.
Et quand oui, qui ont été récessifs, et c'est pour ça, parce que
oui, mais le ils bilan, sont sortis, tout va
parce
bien
que
maintenant.
Le bilan de récession a tout été fait maintenant. Suite, non, parce qu'il y a eu ce bilan de récession en disant en deux ans vous devez faire telle ou telle ou telle coupe et que ça a été récessif. C'est pour ça qu'à la crise Covid, tous les États se sont mis d'accord pour ne pas être dans cette situation.
Bien, l'Espagne va bien.
Non, mais c'est pas grave, on ne peut pas dire ça quand on sait ce que les gens ont vécu à cette époque-là. C'est
d'accord,
facile.
On a eu une période, mais c'est logique.
En Grèce, vous deviez choisir et tirer au sort. Non, mais en Grèce, il faut être quand même très concret. En Grèce, vous deviez tirer au sort pour avoir votre traitement contre le cancer. Au Portugal, les gens étaient baissés de 30% du jour au lendemain.
Il y a un moment, on ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a un moment.
Mais les États-Unis sont aussi très endettés.
Mais ce sont les États-Unis, on ne peut pas comparer la France avec les États-Unis.
Oui, d'accord, c'est par rapport
au dollar. Très rapidement, on passe au deuxième sujet.
Deux éléments. Effectivement, quand vous êtes en déficit de votre balance des paiements courants, comme vous ne vendez pas assez, vous vous vendez concrètement, on a perdu la maîtrise de notre patrimoine. Notre bourse est détenue par des étrangers, notre dette publique est détenue par des étrangers. Nous sommes le pays au monde dont l'immobilier est le plus détenu par des étrangers. Ce qui veut dire concrètement que tous ces avoirs que les étrangers ont sur nous, nous sommes le pays, après les États-Unis, qui a le voir extérieur net le plus négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la génération d'après, quand elle va travailler, il y a toute une partie de son travail qui partira pour payer la retraite des Norvégiens.
C'est d'ailleurs qu'elle n'a pas envie de bosser.
Et ça, bon, non, je ne sais pas. Bon, je sais
et
pas
elle
pas
a conscience de ça.
Et elle a raison. Et sur les États-Unis, deuxième remarque sur les États-Unis, les États-Unis sont dans la même situation. Et quand vous regardez.
Vous alliez dire les situations. Les États-Unis sont dans la main.
Aussi.
J'ai eu peur.
Qui est le plus détenu au monde, avec comme conséquence que quand vous regardez la campagne électorale, il commence à y avoir des gens qui disent, vous savez, c'est le tweet de Trump que je cite assez souvent, quand on lui dit, vous savez, les automobiles, elles sont fabriquées par les Allemands et les hôtels de New York, ils sont détenus par les Japonais, il avait fait un tweet de la subtilité qu'on lui connaît en disant, si les Allemands et les Japonais n'ont pas compris en 1945, nous sommes prêts à repasser le couvert. Sauf que les Allemands et les Japonais, effectivement, ils ont... hélas, conduit entre 1920 et 1945 une politique qui était une politique monstrueuse. Et maintenant, ils ont une autre forme de politique qui s'appelle une politique d'épargne. Ça consiste à épargner pour acheter à l'étranger et pour détenir effectivement les avoirs qui vous permettront de vivre dans les situations où votre population est en train de vieillir.
Alors, on va passer directement, malheureusement non, parce que c'était passionnant, la question macro de la semaine. La question macro de la semaine, elle est simple. Je vais me tourner vers Jean-Marc Daniel. C'est la fin de la croissance verte et c'est le début de la croissance rouge ou marron. Rouge sang, c'est-à-dire que est-ce que le réarmement mondial va booster la croissance, un peu l'effet Vladimir Poutine, les dépenses d'armement ont explosé tous les records en 2023, si les pays de l'OTAN veulent atteindre l'objectif de consacrer 2% de leur PIB à la dépense chaque année, elles vont encore s'envoler. C'est donc vous avez abandonné votre rêve de transition écologique. Vous êtes d'accord pour la transition militaire.
Jamais. Quant à cette idée que c'est parce qu'on accumule des armes que l'on fait de la croissance économique, c'est complètement absurde. C'est-à-dire on accumule des armes qui sont des choses. Le but de la croissance.
C'est de la croissance quand même.
Ah ben oui, c'est
pour
de la
les États-Unis. C'est de la production.
C'est de la production, ah bon effectivement. Et on le voit bien aux États-Unis. Ah oui, on produit, on distribue des revenus, mais comme on produit des choses inutiles, on a un déficit extérieur considérable. Donc le véritable enjeu quand même de la croissance économique, c'est pas de produire, c'est soviétique de dire, écoutez, on produit, vous avez vu la quantité d'acier qu'on a produit.
Non mais on produit et on vend.
Ah mais on vend
parce que les Russes ne vendaient pas. Oui, eux, ils ont États-Unis produisent et vendent au monde entier.
Oui, sauf que, écoutez, le but de ça, c'est quand même pas essentiellement de vendre, c'est de permettre à un certain nombre de gens de casser.
Donc vous ne croyez pas à la transition militaire?
Ah, pas du tout. Et je pense d'ailleurs que quand on parlait de dividendes de la paix, c'était une bonne expression, c'est-à-dire la baisse des crédits.
Donc vous ne croyez pas aux dividendes de la guerre?
Non, pas du tout. Je crois encore aux dividendes de la paix et à la nécessité de la transition écologique.
Anne-Sophie, est-ce que la transition militaire va remplacer la croissance verte?
Alors non, hein, on n'espère pas, et c'est pas non plus quand même ce que l'on voit dans les chiffres. Bien sûr, on voit cette explosion, et notamment nous, dans notre commerce, on en profite aussi parce que on est désindustrialisés, mais pas sur cet aspect-là. Donc, tout de même, hein, c'est sûr que pour nous, ça a aussi un attrait. Sur le moyen et long terme, je trouve que ce qui est assez intéressant quand on regarde vraiment ces chiffres, c'est aussi la question de quelle défense et à quel coût. Et c'est vrai que pour l'Europe, hein, bon, j'en reviens toujours à cet aspect européen. Hein, désolé. C'est vrai qu'on voit que malgré l'explosion de ces dépenses, il n'y a pas de prise de conscience réelle d'avoir une défense européenne avec d'un côté les blocs du Nord qui restent toujours sous le parapluie américain et de l'autre côté les pays du Sud qui le sont moins.
Plus pratique, est-ce que ça alimente la croissance, oui ou non?
Alors à moyen long terme ou à court terme, oui, hein, parce que bon, par exemple pour nous qui vendons des armes, bon, voilà, mais c'est de la production.
On ne les vend pas, les armes.
Ah, si,
on les
vend. Si,
ah non, mais aux
vend.
Ukrainiens, on les donne.
Oui, mais d'accord, mais c'est une partie de la production.
Oui, une partie.
Les Allemands, quand ils se réarment, ils achètent des armes.
Ils achètent des chars parce qu'ils ont donné des chars Léopard aux Ukrainiens.
Oui, le problème, c'est que quand les Allemands doivent acheter des armes, au lieu de les acheter aux Français, ils vont les acheter aux Américains. Ça, c'est un autre sujet. À mon sens, c'est beaucoup plus ça le sujet que le sujet de qui produit quoi pour.
Sébastien Corcher, on est en pleine hypocrisie hein, dans la gestion. C'est-à-dire qu'avec les valeurs ISR, ESG, tous ces trucs-là, la défense, on n'y touche pas. Bon, l'énergie, on n'y touche pas, même si on continue à utiliser du pétrole. Il y a un moment, cette industrie de l'armement, qui est-ce qui va la financer à part l'État ?
Bon, de toute façon, ça peut être que l'État, puisque c'est quand même une réponse régalienne à une autonomie qui est stratégique. Donc c'est forcément soit l'État, soit l'Europe. Il y a eu d'ailleurs des idées de faire un fonds européen de la défense. Donc ça peut pas être autrement. Après, vous pouvez soutenir vos entreprises, vos champions ou vos PME, mais vous entendez en ce moment les PME elles-mêmes qui disent, bah, et pour revenir à votre sujet de l'ESG quelque part, c'est qu'il n'y a pas forcément que l'ESG en bourse, et ça n'empêche pas les titres de monter. Je vous rappelle que Rheinmetall est au plus haut historique, que Thales est au plus haut, donc il y a quand même des gens qui achètent ces valeurs-là. Mais sur l'industrie de défense, des PME, des start-up qui n'est pas cotée, ce que disent les entreprises, ici même d'ailleurs souvent sur BFM, c'est qu'on a un problème de financement de court terme, c'est-à-dire que les banques ne nous prêtent pas parce qu'on a un problème, on n'a pas la bonne image. Donc c'est pas que les grands groupes, c'est aussi les petites entreprises. Et puis vous pouvez doper votre économie, c'est vrai qu'il y a un effet multiplicateur en dans l'industrie.
C'est un des effets multiplicateurs les plus importants.
Enfin, il y a un effet multiplicateur pour la France, mais si vous regardez par exemple l'Allemagne qui n'avait pas une armée forte, ou le Japon avec sa simple armée d'autodéfense, ils étaient meilleurs économiquement parce que ça crée aussi des effets d'éviction. Quand vous investissez 30% de votre budget de défense dans le nucléaire pour la protection nucléaire, ça profite à tous les pays d'Europe, mais personne ne vous le paye. C'est ce que dit un peu quelque part Trump, qui dit moi je dépense beaucoup, les autres en profitent, mais finalement, c'est personne ne paye. Donc maintenant, c'est à chacun de payer. Donc pour la bourse, effectivement, il va y avoir un sujet peut-être pour que tout le monde puisse racheter ces valeurs-là, de revisiter la notion.
Aujourd'hui, c'est interdit ça dans,
non, c'est
dans
pas
des
interdit.
Grosses
gestions. Absolument pas. C'est interdit pour ceux qui ont décidé que ça l'était avec certains critères. Mais c'est pas interdit pour.
C'est interdit. Alice Labou. C'est interdit principalement pour ceux qui ont le label ISR ou qui ont vraiment des labels assez avancés sur l'investissement socialement responsable.
Si on a un fonds aujourd'hui qui a un label.
C'est très compliqué. On n'est pas censé trop investir. Mais moi qui suis spécialiste des thématiques, je pense, même si ça peut ne pas plaire à tout le monde, que c'est une nouvelle thématique d'investissement qui est intéressante. C'est-à-dire qu'on a quand même des escalades quand même importantes au Moyen-Orient. Il y a quand même des. Je ne dis pas qu'on va forcément vers une troisième guerre mondiale, mais enfin, quand même, on sent des tensions de plus en plus marquées, des réarmements des pays.
Donc vous allez lancer un fonds de défense chez Tresento ou pas?
Non, je ne vais pas lancer un fonds de défense parce que là, ce n'est pas dans la stratégie. Mais en tout cas, c'est une thématique qui m'intéresse et qui, pour mes clients, m'intéresse aussi. Et donc, quand on voit, et juste le juge de paix, c'est quand même aussi la bourse, hein, parce que bon, ça anticipe aussi. Donc, Rheinmetall, donc Sébastien disait, plus 85% depuis le début de l'année. Kongsberg, c'est des missiles norvégiens, plus 60%. Leonardo, c'est l'ancien film Mechanica, plus 45%. Thales, plus 16%. Donc, quand même, la bourse ne s'y trompe pas.
Et la réalité, c'est que quand vous achetez de la gestion passive, un ETF, vous achetez du Thales ou vous achetez du Rheinmetall dans un
ETF. Mais on ne le dit pas. Et c'est caché.
Mais vous avez le droit.
Donc la croissance rouge, ce n'est pas pour demain alors.
Ah, mais la croissance militaire, en fait, d'abord, les effets multiplicateurs tels qu'ils avaient été théorisés au moment notamment de, tout le monde dit, c'est la guerre qui a sorti les États-Unis.
Emmanuel Lechypre a fait toute une démonstration vendredi matin sur les effets des multiplicateurs de l'industrie de l'armement.
Oui, de l'industrie de l'armement. Mais il faut que vous ayez, pour que vous ayez un effet multiplicateur.
Je dirais.
On l'a bien dit, il faut pas qu'il y ait d'éviction. C'est-à-dire qu'il faut pas se faire d'illusions. Cet effet multiplicateur, vous l'avez au détriment de notre secteur économique. Et donc, c'est considéré qu'il n'y a pas autre chose à faire que de faire de la défense. Je rappelle aussi que, en comptabilité nationale, toutes ces armes ne sont pas vécues comme des armes des investissements, parce qu'elles ont vocation à être détruites très rapidement. Alors que l'investissement, c'est pas pour être détruit, c'est pour préparer effectivement l'avenir et produire quelque chose d'avenir. Donc.
Vous continuez à vous enfoncer dans votre fantasme de croissance verte.
Je continue à m'enfoncer, dans mon fantasme de croissance verte, et indépendamment de tout aspect éthique, je vais pas dire, écoutez, je vais être hyper politiquement correct, c'est odieux, c'est monstrueux, tous ces marchands d'armes et tout ça. Je dis quand même que sur un plan du bien-être général, il vaut mieux faire de la croissance verte que de faire des canons.
Allez, on se retrouve en deuxième partie de l'émission pour se demander si la bourse est mûre pour une correction, quel est le placement de la semaine, le top ou le flop de la semaine, et le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. À tout de suite.
BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission pour parler de la bourse, pour parler des placements de la semaine, du top et le flop, du top 3 des gérants, des actions à acheter ou vendre. Et on passe tout de suite au marché cette semaine. Bon, pas mal, mais un peu chaud. C'est pas non plus la catastrophe. On s'est dit, oh là là, ça baisse un peu. Alors, l'événement de la semaine, c'était le chiffre de l'inflation aux États-Unis. On attendait un chiffre inférieur. On a été à 3,5%. Si on enlève l'énergie et l'alimentation, c'était 3,8%. Donc, les marchés ont dit, bah voilà, c'est clair, il va pas y avoir la baisse des taux qu'on attendait aux États-Unis en juin. Elle aura pas lieu. Puis certains commencent à dire, il y aura même pas de baisse des taux aux États-Unis en 2024. Juste avant de passer la parole au gérant, vous continuez à dire qu'il n'y a pas d'inflation, même s'il y a 3,5% d'inflation aux États-Unis. Expliquez.
Pourquoi ? Parce que effectivement, l'inflation, effectivement, c'est un décalage entre l'offre et la demande. Et ce qui est intéressant dans ce qui se passe aux États-Unis, c'est que l'excès de demande, beaucoup plus d'ailleurs que dans les prix, il est dans le déficit extérieur. C'est-à-dire que vous avez un mécanisme maintenant qui font que les pays qui sont en déficit extérieur sont les pays qui autrefois étaient en situation d'inflation. Et donc les corrections à mon avis, ne peuvent plus passer par la politique monétaire, mais par une gestion de la demande au travers, justement, de mécanismes des déficits jumeaux.
D'accord, mais les prix continuent à augmenter. Il y a de l'inflation. Il y a bien un chiffre. Là, on peut pas nier les 3,5% d'inflation.
Oui,
c'est ça que j'essaye de comprendre.
Oui, non, mais par rapport au
discours. Pour des esprits simples.
Oui, comme pour des esprits simples. Je les vois bien, les chiffres. Il n'y a pas de problème.
Ah, oui.
Le véritable enjeu, c'est est-ce que c'est durable, ce qui est la définition de l'inflation? Est-ce que c'est auto-entretenu? Ou est-ce que c'est temporaire? Et est-ce que ça correspond effectivement à une séquence de certains prix très, très, très bien ciblés?
Donc vous dites c'est temporaire et ça va décrocher.
Décrocher. C'est d'ailleurs ce que disaient les banques.
Si l'économie continue à être aussi forte, avec un emploi qui est aussi fort, avec des salaires qui continuent à augmenter, les prix vont continuer à augmenter?
Non, parce que les entreprises, encore une fois, et les ménages se procurent leurs ressources de plus en plus à l'étranger. Vous avez quand même les salaires qui augmentent, ce sont des salaires qui augmentent aux États-Unis.
Oui.
Mais au niveau mondial, le salaire est en train de baisser.
D'accord.
Vous avez une introduction dans l'activité économique mondiale, notamment de l'Inde, qui est en train de faire pression sur les salaires. Et donc d'ici mai un an, vous allez commencer à voir la substitution progressive des produits indiens aux produits chinois, avec comme conséquence que vous allez avoir une baisse des prix dans le pays.
D'accord,
qui est le pays qui est le débouché.
Emplois de proximité, là où la hausse des salaires a explosé aux États-Unis, vous n'allez pas pouvoir.
Ah oui, ça c'est clair. Les choses qui peuvent. Oui, ça je suis assez d'accord. Et donc après, ça pose un problème qui est un problème de répartition au sein du pays entre les pays, les secteurs qui sont en concurrence et qui vont être obligés de se soumettre à des prix indiens et les secteurs qui échappent totalement à la concurrence et qui vont en profiter pour essayer de gagner des rentes.
Sébastien Corchia, la bourse est mûre pour une correction ou pas ?
Ça fait longtemps qu'elle est mûre pour une correction, ouais, en fait.
Et que ça continue à monter.
Alors, attention, ça monte pas exactement comme on peut imaginer. Effectivement, si vous regardez le thermomètre, le CAC 40, effectivement, il se tient bien. Oui, mais il faut regarder derrière, en fait, la composition, à la fois la composition, mais qu'est-ce qui monte ou qu'est-ce qui ne monte plus, par exemple. Et c'est intéressant de regarder de comprendre qu'en novembre, décembre, la bourse avait beaucoup monté sur ses anticipations de baisse des taux 6 à 7, hein. C'est-à-dire des anticipations qui allaient se déclencher immédiatement, mars, régulièrement et de manière forte, c'est-à-dire 150 points de base. La bourse s'est complètement trompée. On est passé de 7 à 3, maintenant 2.
La bourse n'a pas baissé.
Et aujourd'hui, alors la bourse n'a pas baissé, mais attention. Elle n'a pas baissé parce qu'elle a masqué cette erreur de jugement, hein, véritablement. Aujourd'hui, la bourse, à 15%, elle commence à penser qu'il y aura pas de baisse des taux. Hein. Donc elle a masqué cette erreur de jugement en se retournant vers ce qui lui paraissait le plus défensif, c'est-à-dire des valeurs de croissance. Si elle avait été très optimiste, la bourse, sur la croissance et la désinflation, elle serait revenue sur les valeurs cycliques, ce qui n'a pas été le cas. Elle est allée se mettre sur des valeurs de croissance sur un nombre très limité, vous le savez.
Elle a quand même et donc, globalement
oui,
monté.
Mais il y a cet effet surconcentration. Et regardez les marqueurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un, l'or, le pétrole quand même, mais surtout, il y a une donnée qui est intéressante, c'est la taille et les flux vers les 6 caves monétaires aux États-Unis. Pendant que vous me dites que la bourse monte, moi je vous dis qu'il n'y a jamais eu autant d'argent qui va se planquer, c'est le mot, sur les 6 caves monétaires aux États-Unis. Des gens très
donc
intelligents.
Donc ça veut dire que ça peut alimenter une nouvelle vague de hausse.
Oui, ça peut dire aussi que c'est des gens qui n'ont pas participé à la hausse et quelque part qui n'y croient pas.
Bah oui.
Ils n'y croient pas parce
donc
que...
Donc c'est des munitions pour une prochaine...
Alors ça sera soit des munitions pour une prochaine phase de hausse, on l'espère, soit c'est de l'argent qui est tenu là parce que à 5%, surtout si on vous dit que finalement les taux vont pas baisser, et de l'argent dont le gouvernement américain a fortement besoin parce que à coup de 100 milliards de dettes supplémentaires tous les 30 jours, pour revenir au premier sujet, il faut financer cette dette à court terme et à long terme. Probablement un moment un peu difficile, surtout si on y rajoute un environnement géopolitique qui quand même, avouons-le, est pas du tout intégré par les marchés et ce temps.
Enfin, il est intégré par l'or, il est intégré par le pétrole.
Il est intégré par le pétrole essentiellement.
Alice.
Deux points. D'abord, le premier, c'est que pour moi, on est sur un marché haussier, donc d'avoir une respiration ou un moment d'abaissement des marchés.
On parle de correction.
Correction, ça me choque pas et ça peut arriver maintenant, ça peut arriver dans un mois, dans deux mois. De toute façon, on ne sait jamais vraiment quand ça arrive, sinon ça serait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment en fait la question sur l'inflation. Moi, je pense que l'inflation va décélérer grâce à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui
l'intelligence artificielle.
Non, mais vraiment, vous avez aujourd'hui des patrons.
Moi, c'est l'intelligence pure.
Oui. C'est différent, mais l'un n'exclut pas l'autre. Mais en tout cas, vous avez le patron d'IBM qui vous dit que maintenant, il lui faut 2 jours pour faire une campagne marketing, là où avant, il lui fallait 2 semaines. Vous avez Copilot qui a été lancé par Microsoft qui améliore la productivité de 50%. C'est colossal.
Non, mais c'est fascinant. Moi, j'utilise tous les jours, c'est fascinant.
Non, mais c'est
incroyable.
Donc, si vous voulez, il va y avoir des tels gains de productivité que, de mon point de vue, ça va diminuer en fait l'inflation. Donc, ça va être très favorable.
Juste une chose pour regarder sur la bourse et rebondir sur ce que dit Ali. L'inflation, il ne faut pas oublier, au début, on s'est beaucoup référé dans les années 70-80, en se disant, l'inflation monte, elle redescend, puis elle repart à la hausse, c'est comme ça qu'elle a été observée. La réalité, c'est que quand les marchés actions immobiliers remontent très très fort, comme ils sont en train de le faire sur le marché actions, vous recréez ce qu'on appelle l'inflation des actifs, et la bourse avait commencé à générer cette inflation des actifs. Avant, l'inflation des actifs, ça permet par exemple à beaucoup d'Américains actuellement de partir plutôt en retraite, parce que leur plan de retraite... ont beaucoup progressé, ce qui fait que le marché de l'emploi est en surtension, ce qui fait qu'il faut augmenter les salaires, et ce qu'on gagne. Donc, le réservoir de l'inflation, il est en train quand même de se réalimenter par ça.
Intéressant. Anne-Sophie ?
Je rappelle quand même que pour l'inflation, enfin rapidement, hein, ce qui est quand même central, c'est quand même le prix de l'énergie. Ça, il faut quand même le dire. Et quand on regarde justement la demande, notamment d'électricité avec la transition, on va continuer à avoir des prix de l'énergie qui ne vont pas être ceux qu'on a connus dans le passé, notamment au niveau de l'électricité. Donc même si on va revenir, à mon sens, dès l'année prochaine, à une situation contenue, on ne reviendra pas dans une situation, en tout cas concernant les prix de l'énergie, vraiment bas qu'on a pu le connaître précédemment.
Baisse des taux aux États-Unis ou pas ?
Alors, moi, je pense on n'était pas sur le scénario de cette année, c'est plutôt en fin d'année ou début d'année 2025. Oui, complètement. Ce qui est assez intéressant aux États-Unis, là encore, hein, c'est quand même la croissance économique. Alors moi, je regarde beaucoup la croissance et les composantes parce que je trouve qu'on voit tout. Rappelez-vous, même sur ce plateau, on en a beaucoup parlé, vous parliez depuis 2 ans d'une récession aux États-Unis. Vous commenciez en disant quand la récession aux États-Unis. Là, c'est quand même incroyable de voir qu'en ayant une politique de taux de hausse qui était à peu près pareil que la BCE, même si on a commencé
plus tôt, cette question, hein, la semaine dernière.
Vous avez un écart de plus d'un point de prévision de croissance. On est à 0,9 pour la zone euro, on est à 2% pour les États-Unis, avec l'investissement des entreprises qui se maintient et qui perdure, alors qu'il s'effondre en zone euro.
Jean-Marc Daniel a une réponse pour ça.
J'imagine qu'il a une réponse.
C'est le déficit budgétaire, alors, c'est 2000 milliards d'euros.
Avec 8% de dollars de déficit budgétaire, c'est facile de doper le moteur aussi.
Exactement.
Oui, mais complètement avec la politique budgétaire, mais par contre, c'est assez intéressant de regarder les composantes de l'investissement. Et moi, j'aime bien regarder les données historiques sur 100 ans, parce qu'en fait, l'économie, ça se reproduit tout le temps, donc c'est assez facile, on a juste la réponse dans le passé. Et là, ce qu'on voit, hein, par rapport à ce que vous dites sur, oui, en effet, il y a du déficit, il n'y a pas de débat, mais c'était le cas après 2008, crise du Covid aussi, on a énormément d'injections, donc on connaît, c'est que l'investissement des entreprises tient, en partie, parce que justement, cette épargne des ménages, hein, qui est à 4% et qui a toujours été très faible aux États-Unis, finance beaucoup plus l'économie, mais l'économie productive. On dit l'IRA, pas d'impact, etc. Pour l'instant, macroéconomiquement, etc., c'est rien. Qu'est-ce qui se passe? On a un pays qui est complètement désindustrialisé, qui, avec ses politiques de subvention à la louche, hein, tout à fait, veut justement attirer des entreprises et être leader vraiment dans l'énergie, parce qu'il a bien compris, bien sûr, pour s'émanciper de la Chine, mais aussi au niveau industriel. Et donc, les emplois et l'investissement qui est créé, il est productif il est dans l'industrie. Et quand vous regardez justement la productivité États-Unis versus zone euro, il y a de la productivité aux États-Unis qu'il n'y a pas en zone euro. Donc, c'est ça la grande différence.
Jean-Marc, les États-Unis, bon, l'Europe, a priori, ça a l'air d'être, j'espère, on va baisser les taux avec 9 mois de retard, mais en juin. Vous pensez qu'aux États-Unis, je vous ai nommé ministre de l'économie en France, vous êtes patron de la Réserve fédérale, vous baissez les taux malgré l'inflation?
Je baisse les taux parce que déjà, le financement du déficit budgétaire est tel que, quand vous regardez les missions de la Réserve fédérale, on parle d'inflation, on parle de plein emploi, mais le véritable enjeu, c'est de maintenir des taux d'intérêt pour éviter que l'État n'ait une charge de la dette trop importante. 2 000 milliards de déficit budgétaire tous les ans, 20 000 milliards d'augmentation de la dette, 8% du PIB en déficit budgétaire. Donc, vous avez forcément de la croissance. Et donc, j'essaie de baisser les taux, effectivement, pour limiter la casse sur les finances
publiques. Mais si vous baissez les taux, vous relancez l'inflation un peu?
J'espère, effectivement. Non, parce que, effectivement, l'inflation est une inflation, comme on l'a dit, c'est le prix de l'énergie et les taux assez peu d'influence là-dessus. C'est le prix de la main-d'œuvre, et je maintiens, vous avez de plus en plus de main-d'œuvre qui est importée indirectement au travers de la concurrence. Je pense, effectivement, qu'il y a des enjeux, mais là le FMI vient de dire que l'intelligence artificielle n'en verrait pas la gain sur la productivité dans les 10 ans qui viennent. Il faut attendre ça.
Il prouve qu'il devrait l'utiliser un peu plus eux-mêmes.
Sais que l'opinion que vous aviez sur le FMI qui est encore peut-être plus négative que celle sur la BCE, et pourtant c'est difficile. Mais puis il y a un élément qui est un élément, enfin quand même les États-Unis, il faut voir ce que c'est devenu. C'est là aussi, c'est ce que dit Trump, en fait les États-Unis c'est des capitaux européens et japonais qui font travailler dans des usines les Mexicains qui sont installés sur nos territoires. Il y a un moment où il faut effectivement que les États-Unis retrouvent un esprit, qu'ils soient un esprit où on épargne, qu'ils soient un esprit où effectivement on fasse davantage de l'appel à l'épargne et non pas au déficit budgétaire.
Allez, on passe tout de suite au placement de la semaine. Très rapidement, je vais me tourner vers Alice Labouche. Donc pas de conseils en action, là c'est pour plus tard. Mais aujourd'hui, si quelqu'un vient vous voir pour vous dire j'ai de l'argent à vous confier, Jean-Marc Daniel qui a une fortune immense, qu'est-ce que vous lui conseillez?
Je lui conseille d'investir sur les thématiques d'investissement, sur les actions à long terme, toujours les catalyseurs. Franchement, c'est ce qui paye le plus, quels que soient les cycles. Les grandes thématiques, robotique, IA, santé, mais aussi l'eau, l'environnement et éventuellement l'armement ou la défense.
Sébastien Corchet, on vient vous voir. Jean-Marc Daniel, avec sa fortune immense, qu'est-ce que vous lui proposez?
Je serais ravi de l'accueillir, Jean-Marc Daniel.
À mon avis, le coffre n'est pas assez
grand. Après, ça se terminera par, bon, finalement, un livret. C'est ce que vous avez.
Je vous passe mon stagiaire.
Je lui proposerai à Jean-Marc, je lui proposerai un mandat de gestion, mais je lui proposerai un mandat de gestion en allocation d'actifs. Parce que, en fait, la réalité des choses, c'est que la réponse aujourd'hui, elle est extrêmement dure à donner. Les taux n'ont pas de visibilité. Certains vous disent que les taux vont baisser parce que l'inflation va baisser. D'autres vous disent que les taux vont monter.
Anne-Sophie dit fin d'année, carrément.
Attention, je parle des taux longs. Parce qu'en fait, la dette est tellement importante à financer 100 000 milliards de dettes dans le monde, qu'il faut des capitaux de partout et qu'il n'y en aura pas assez, donc ça tire les... Donc il faut être très mobile sur les taux. Sur les actions, vous voyez qu'il y a un engouement sur un nombre très petit d'actions et pas seulement sur les indices, mais vous voyez cette semaine que les gens ont envie de rejouer la thématique de la Chine, etc. Donc je dirais, confiez-moi un mandat de gestion et je vous ferai en allocation d'actifs, parce que la réalité, c'est que cette
donc bourse... vous dites quoi? Vous dites qu'il faut se diversifier,
oui,
et avoir
se diversifier,
une allocation équilibrée,
être mobile, être équilibré, et que l'année qui depuis le début de l'année a semblé donner un semblant de je dirais de linéarité, c'est une fausse linéarité, et que le reste de l'année me paraît devoir nous faire connaître beaucoup de volatilité, qui est un mot qu'on n'a pas connu depuis très 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 longtemps, et qui est souvent un mot qui revient quand justement il y a des débats d'opinion forts sur les marchés. On va les retrouver, ces débats d'opinion. Ils commencent sur l'or, le pétrole versus les actions, par exemple.
Le top ou le flop de la semaine, Anne-Sophie, pour
moi,
vous?
C'était le flop sur l'armée européenne de défense. On en a parlé un peu, qui est inexistante. Bon, pour des raisons politiques, encore, on l'a dit. Ça, on les connaît, ces raisons politiques et autres. Ce qui est un petit peu compliqué.
Les mentalités évoluent un peu.
Et alors, en Europe, on évolue
défense,
toujours. Donc, quand on voit que la crise se rapproche tout d'un coup,
si
on évolue. Voilà, bon, ça, c'est une idée de Thierry Breton qui était très ancienne. Donc, bien sûr qu'il fallait faire depuis un instant. Ce qui est plus préoccupant, à mon sens, c'est vrai que c'est qu'on n'a pas cette coordination, et également sur l'industrie de la défense en Europe, on n'a pas une vision européenne. Et ça, c'est très compliqué, parce que là, vous êtes plus spécialiste, mais vous savez que la défense, c'est pas que des missiles et autres, c'est aussi de l'intelligence artificielle, c'est aussi des données qui sont absolument centrales. Et le fait d'avoir tous les systèmes qui sont là, pour le coup, pas européens, ça, je crois que c'est aussi un vrai problème, et c'est pas du tout abordé au niveau européen, ces questions-là. Pas du tout.
Sébastien, top ou flop?
Alors, un top, mais qui va dans ce que je vous disais sur la volatilité, où on n'est plus du tout habitué. En fait, j'ai été assez surpris vendredi dernier, en fait, de lire que, parce que la bourse avait perdu 1,1% vendredi...
C'était quasiment un crack.
Que c'était effrayant et que c'était la plus forte baisse depuis le 1er janvier. Un truc de dingue, quoi. 1%. Et je me suis amusé à regarder. Aux États-Unis, figurez-vous, Marc, que ça fait 290 séances, à peu près, autant dire plus d'un an, tout petit peu plus d'un an, qu'il n'y a pas eu de baisse supérieure dans une journée à 2%. Donc un marché qui est complètement, finalement, aseptisé, qui monte, qui ne baisse jamais, et qui nous fait un peu nous endormir, nous, les gérants d'actifs, comme les épargnants.
Donc c'est un top. Bravo,
donc c'est
marché
un top,
qui résiste à tout pour l'instant,
un marché
mais on verra
qui résiste à tout, mais sur lequel il faut être toujours un peu sur ses gardes, parce que la dernière fois qu'on a connu ça, c'était 2017-2018. C'est des événements de séquence très très rares statistiquement.
Alice.
Alors c'est un top et un flop, c'est-à-dire que c'est un top pour les Américains et un flop pour nous les Européens.
Bon,
donc TSMC, le plus gros producteur au monde, donc taïwanais, de puces, donc de semi-conducteurs, a annoncé 12 milliards de subventions et de prêts donnés par nos amis américains, donc par Biden, pour créer leur troisième usine à Phoenix. Et donc il faut comprendre que tout ça s'inscrit dans un grand programme qui est le programme qui s'appelle Chips and Science Act. En fait, l'idée, c'est vraiment de relocaliser les savoir-faire nécessaires à la croissance de demain. Et bien, dans la croissance de demain, il y a les fameuses petites puces, notamment pour l'intelligence artificielle, mais pour tous les objets connectés, pour la 5G et autres. Et donc, c'est, voilà, ça, on s'en bête, mais pour faire quelque chose de productif. Donc on va créer
c'est
la croissance de demain.
Parce que dit Jean-Marc Daniel, vous allez me
l'énerver. J'ai un peu l'impression qu'en Europe, c'est
vous
pas
allez
tout à fait
me l'énerver.
On s'endette pour autre chose, pour payer des tas de choses dont on ne rentrera pas dans le sujet. Mais...
Jean-Marc, le top ou le flop de la semaine pour vous?
Oui, je ne vais pas réagir.
Non, on dit parce qu'on en a pour trois quarts d'heure.
On
fait une émission spéciale où vous pourrez réagir.
Voilà. Mon top ça va être jugé encore une provocation par un certain nombre de gens qui me suivent. C'est la Banque centrale du Zimbabwe. Alors pourquoi la Banque centrale du Zimbabwe? Parce que historiquement, c'est quand même le pays où il y a eu le plus dans l'histoire d'inflation. Ils ont pulvérisé le record de la Hongrie de la fin des années 40.
C'est un des pays les plus endettés au monde.
Et c'est un des pays
premiers à être au-dessus de 100% avec le Japon.
Oui, absolument. Et donc, pourquoi le Zimbabwe? Parce qu'il y a un nouveau gouverneur de Banque centrale qui a hérité de 55% d'inflation. Pour le Zimbabwe, c'est quasiment la stabilité des prix. Et il a annoncé qu'il allait changer de monnaie. Et pourquoi il allait changer de monnaie? Parce qu'en ce moment, la monnaie qui circule au Zimbabwe, c'est le bonbon sud-africain. Parce que tout le reste a disparu, il n'y a plus assez de dollars, il n'y a plus assez de rendes, et donc ils échangent des bonbons. Et il a expliqué ce qu'on avait déjà constaté dans l'Allemagne des années 40, où c'était la cigarette américaine, que c'était une assez bonne monnaie, parce que quand il y en avait trop, elles se détruisaient d'elles-mêmes, les gens mangeant les bonbons. Dans les cigarettes.
Et des vrais bonbons, vous dites?
Des vrais bonbons, c'est des vrais bonbons qu'on achète, qu'ils achètent en Afrique du Sud. Quand il y en a trop, quand il y a effectivement des prix qui montent en bonbons, les gens se mettent à manger les bonbons et donc la quantité de monnaie se rétracte et ça stabilise les prix. Alors on avait constaté la même chose sur les cigarettes américaines en Allemagne dans les années 40.
On pouvait pas manger.
Mais on les fumait. On les fumait.
Bien sûr.
Et donc, et alors il a décidé de trouver un référentiel monétaire qui soit l'équivalent des bonbons sud-africains et c'est l'or, la nouvelle monnaie qui va être émise là à partir du 1er mai
sera
basée sur l'or et donc je trouve que c'est une assez bonne analyse de la part du banquier central du Zimbabwe d'avoir constaté qu'effectivement il y avait une sorte de pertinence au bonbon sud-africain et que le seul élément qui pouvait combattre le bonbon sud-africain c'est l'or. Je suis assez d'accord avec cette double analyse.
Vous aimez l'or vous?
Ah oui, je pense que l'or, ça reste la monnaie historique.
Spectaculaire, on est au-dessus de 2 400 $.
C'est la monnaie, c'est la seule monnaie au monde qui n'a pas de risque souverain, et c'est sûrement pour ça que elle a beaucoup d'engouement actuellement, à un moment où la dette, qui est un risque souverain,
avec
la dette n'a jamais été aussi haute dans le monde.
Vous m'avez assimilé au général de Gaulle, ce qui était flatteur pour
et
moi.
Et à Aya Nakamura aussi.
Oui, mais enfin, je rappelle quand même la conférence de presse de février 65, où il défend l'or, et ce qu'il dit reste d'actualité.
Allez, on passe tout de suite au top 3 des gérants. En tête, Pascal Sévier à 11,8% de performance depuis le début d'année. Alain Pitou, 7,5%. Un petit coucou à notre ami Alain. Pierre Chang, 7,4%. Et je vais avoir besoin d'une musique qui fait peur. Alice, la France vous regarde.
Ah, avec joie.
Je ne sais pas si elle vous regarde avec joie, mais... je vous donne votre portefeuille, je vous dis ce que
allons-y.
Je dois faire. Vous avez du ABB.
On garde.
Vous avez du Exo Bionics.
On vend.
D'accord, pourquoi?
On vend parce qu'ils font beaucoup d'augmentation de capital et donc du coup, c'est vrai que c'est assez...
Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des robots?
Ils font des exosquelettes.
D'accord. Donc voilà. C'est grâce à ça que Jean-Marc arrive encore à marcher.
Que j'aimais bien, mais bon, c'est un peu plus compliqué que...
À force de parler de mon anniversaire, les gens vont comprendre quel est l'âge réel que j'ai.
Bah, on peut le dire, c'est 50 ans. On peut
exactement.
Insulette.
On garde.
Bico Group.
On garde.
AstraZeneca.
On garde.
Olympus.
On garde.
TSMC.
Vous adorez ça. On garde, évidemment, mon chouchou.
41,5% depuis le début de l'année. Bravo, Alice. Mm-hmm. Deer and Company.
Ça, on garde.
Aptiv PLC.
On vend.
Ah bon?
Ouais.
Pourquoi?
C'est une société qui fait des services pour l'industrie automobile. Nous, on considère qu'on a atteint un prix qui est quand même assez...
Zscaler.
Zscaler, on garde.
Ok, qu'est-ce qu'on achète?
Alors on achète un peu comme Olympus, en tout cas c'est là pour le coup c'est de la radiologie, c'est de l'imagerie médicale, mais donc dédiée pour les radiologues, c'est une société qui s'appelle ProMedicus, alors qui n'est pas forcément connue mais qui est australienne et qui est en train de bouleverser incroyablement le marché de la radiologie parce qu'ils intègrent de l'intelligence artificielle avec des couches spécifiques, donc une capacité en fait d'analyse et surtout de transmission et de visualisation des données, parce qu'en fait on ne sait pas forcément, mais le problème en matière de radiologie, un des problèmes, c'est aussi d'envoyer les données et de pouvoir les afficher. Comme c'est beaucoup de pixels et c'est très grand, en fait, ça nécessite un savoir-faire important. Et eux ont développé une solution qui est dite en streaming, c'est-à-dire que c'est pas je télécharge et j'affiche ou je télécharge et j'envoie, mais eux, immédiatement, en fait, toutes les strates et toutes les couches en fait, d'analyse peuvent être visualisées sur très grand écran.
Vous nous rappelez,
et donc améliorées. Ça s'appelle ProMedicus. Et juste pour vous dire quelque chose, il y a 12 millions d'Américains par an qui ont justement une erreur de diagnostic en matière de radiologie. Et donc c'est pour ça que ça avait évolué de manière, à mon avis, incroyable.
Sébastien Corchia, vous nous faites une petite musique là qui fait peur pour Sébastien. Bon, Sébastien, on repart à zéro, hein, vous êtes d'accord?
Ouais, je suis pas venu depuis longtemps. Donc
ouais, et puis vous changez de boutique.
Et puis
alors,
boutique.
Allez-y,
alors,
qu'est-ce que vous nous conseillez?
Alors rapidement, je vous conseille du Bureau Veritas. C'est une société que les gens connaissent bien. Elle est rentrée en bourse il y a 17 ans. Mais même si elle a fait un beau parcours depuis 17 ans, depuis 10 ans, elles font plus rien. Alors c'est de la certification, du diagnostic, inspection, on va dire comme ça, certification. C'est un leader, un des trois leaders mondiaux. Et depuis 10 ans, elle fait rien parce que peut-être une croissance qui est plus axée sur des secteurs industriels, peut-être une croissance un peu timide. Et là, ils ont fait, il y a quelques jours, en fait, un grand plan stratégique qui a séduit les investisseurs, véritablement, qui est qui déborde pas d'ambition, donc il y a des chances d'être réalisé, des chances d'être atteint, et qui a envie de mettre le focus sur des métiers sur lesquels il y a pas de cyclicité, il y a de la croissance. On pense à la cybersécurité, on pense à la transition
énergétique. Bureau Veritas, on prend.
Qu'est-ce donc que Bureau Veritas, on prend.
Vous avez le droit à plusieurs valeurs parce que vous
non, je vous en cite qu'une deuxième. Juste une petite chose pour Bureau Veritas. elle a toutes les caractéristiques pour entrer dans le CAC 40 au prochain changement au mois de juin.
Ça, je ne sais pas si c'est toujours une bonne nouvelle.
Peut-être pas, mais parfois, en tout cas, ça montre quand même qu'elle a des qualités, notamment de taille et de liquidité. Une deuxième valeur, on parlait tout à l'heure de l'énergie, en disant que les prix d'énergie avaient beaucoup baissé, mais que mine de rien, il nous en faudrait beaucoup dans le temps, et notamment avec l'intelligence artificielle, très consommatrice d'énergie. Alors pourquoi ne pas profiter de ces cours qui sont très bas et de mettre une valeur énergétique? On en a pas mal en Europe et je suis allé vous en chercher une en Finlande qui s'appelle Fortum. C'est l'EDF finlandais. Très très belle valeur qui a naturellement beaucoup baissé, mais ces derniers temps, les investisseurs, notamment les 15 derniers jours, ont envie de revenir sur ces thèmes-là. Donc essayons d'en profiter. Une valeur qui n'est pas endettée. Une valeur qui a un peu R de 10. Une valeur qui a 10% de rendement. Attention, la moitié a déjà été versée. L'autre moitié le sera à la fin de l'année. Donc il y a déjà 5% qui sont tombés.
Mais l'électricité, c'est compliqué, non?
Non, c'est pas si compliqué que ça. Allez les chercher sur les pays du Nord. Vous avez en plus, il y a une pluviométrie qui était bonne. Donc les barrages sont reconstitués, les lacs sont reconstitués. Vous avez le premier EPR en Finlande et qui marche. Faut pas prendre toutes les sociétés d'énergie, mais 2021, 2022, 2023, ça a été apocalyptique pour ces valeurs-là. Ils sont à moins 80%. Je vous dis pas d'aller acheter du EDF, qui était archi endetté, qui est plus là, mais Fortum ne l'est pas. Et dans un portefeuille, aujourd'hui, ça a sa place, surtout quand on disait, mais qu'est-ce qu'on fait dans ces marchés-là qui ont monté, qui sont un peu chers et autres? On va revenir sur quelques thématiques de rendement, c'est pas non plus complètement absurde dans un portefeuille.
Vous deux, vous conseillez à vos clients d'acheter de l'or ou pas? Sébastien.
Alors écoutez, moi je crois qu'il faut toujours... Non, mais c'était un peu cette relique barbare, donc personne ne voulait dans les portefeuilles. La réalité, c'est qu'elle est très corrélée à la dette, et la dette dans le monde a une trajectoire exponentielle, donc il faut en avoir un peu, oui.
Alice?
Oui, combiné au Bitcoin.
Combiné au Bitcoin?
Oui.
Voilà, vous allez l'énerver encore.
Allez.
C'est nouveau.
De nouveau, vous avez fait que ça, vous avez énervé Jean-Marc Daniel. Alors je parle pas d'Anne-Sophie.
Bah c'est peut-être deux mondes qui s'affrontent, je sais pas.
Allez, merci de nous. Allez hop, ça c'était pour Jean-Marc et moi. Allez, merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera exceptionnelle. Et alors surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous revoir, nous réécouter en replay, podcast sur la plateforme BFM et sur toutes les plateformes. Et qu'on a battu un record. Et je suis très content. Merci.